وانا مع المكتب قصيدة
Radio Galère pour la suite de nos enquêtes sur le cinéma indépendant du pourtour de la Méditerranée. Aujourd'hui, on est au Maroc avec des invités, des choses diverses. On a essayé de préparer. On espère que vous vous ferez un peu emporter. C'est parti.
Le cinéma du Maroc a commencé avec donc avec les Français qui vivaient au Maroc en fait. Et ça a continué jusqu'à l'indépendance.
On considère que le premier long métrage marocain, parce qu'on compte les longs métrages, c'est 1958, deux ans après l'indépendance du pays. Il faut arriver à 1970 à peu près, il faut arriver à la fin des années 60, hein, pour avoir quelques films, pour avoir des films plus marquants. On pourrait dire là qu'il y a une première génération de cinéastes marocains qui sont, à mon avis, une caractéristique, c'est que ce sont avant tout des intellectuels qui ont parfois étudié le cinéma en dehors du Maroc, même toujours, je dirais, quand ils l'ont étudié, parce qu'il n'y avait pas d'école de cinéma. Alors il y en avait qui venaient à ce qu'on appelait à l'époque l'IDEC en France, qui est devenue la FEMIS maintenant. Mais c'était finalement peu nombreux. Donc des films ou bien de regard sur la société ou des films très élaborés sur le plan de la forme, exigeant esthétiquement. Si bien que cette génération, il faut bien dire les choses comme elles sont, et n'a hélas pas rencontré son public.
La majorité, elle était de formation donc communiste, même aussi dans la conception de l'objet film. Et du coup, même ceux qui ont réussi donc à produire des films, ils avaient du mal à parler à un public marocain qui a été pendant longtemps submergé par le cinéma populaire égyptien. Et le public marocain adhérait peu à un certain cinéma plus, entre parenthèses, intellectuel.
Alors, une deuxième génération, c'est difficile si on peut parler de génération. Oui, autour des années 70. Mais plus en prise, je dirais, sur les questions de société encore. La première génération travaillait beaucoup le langage cinématographique. Une recherche sur le langage, avec une volonté parfois de se démarquer des codes du cinéma occidental. On était dans l'esprit de la décolonisation, tout cela, etc. Donc il fallait faire quelque chose qui ne soit pas des copies du cinéma occidental. Bon, la deuxième génération était plus axée sur des questions de société. On regardait davantage la société marocaine, avec beaucoup de difficultés, parce que cette deuxième génération de cinéastes marocains, je dis ça pour simplifier, génération, pas question d'âge forcément, et a été contemporaine des durs conflits politiques qu'a vécu ce pays, des tentatives de renverser la royauté, des tentatives de démocratiser le pays, hein, une génération d'étudiants, d'intellectuels qui étaient militants marxistes, etc., avec une répression épouvantable, que nous savons, les années noires du Maroc. Donc dans ce contexte-là, faire du cinéma n'était peut-être pas très commode.
Le centre cinématographique marocain, il existait déjà au temps de la présence des Français au Maroc.
Il faut attendre assez tard. En fait, le vrai décollage, en quantité, je dirais, du cinéma marocain, date des années 90. Le vrai décollage seulement, c'est assez récent, pour deux raisons, je crois. Des gens plus jeunes qui sont arrivés. Eux, c'est pas des gens, les plus jeunes, c'est pas des gens qui avaient lutté contre le pouvoir royal, qui avaient parfois connu les arrestations, la prison, etc., etc., comme certains écrivains. Non. Eux, c'est une génération qui a poussé après, ils n'avaient pas cet embarras de ce passé. Hein. Donc, ils étaient un peu vierges, en quelque sorte. Donc, pourquoi ? Deuxième raison, je dis, années 90, une nouvelle génération, et puis, le Maroc se décide à créer un système de l'avance sur recette, calqué sur le système français. Trois raisons en fait. Une troisième, c'est aussi que politiquement les choses se sont un peu décrispées aussi. Une plus grande liberté est arrivée, etc., d'expression, toute relative bien sûr. Le CSM a changé de directeur au milieu des années 90, j'ai plus la date exacte, je ne sais plus. Enfin, bon, ça a été pris en main par Nordine Sahil, qui est l'ex-dirigeant de la Fédération marocaine des ciné-clubs, qui a travaillé en France à Canal+, etc., etc. Ça peut nous entraîner sur le terrain d'indépendance. Hein. Je parlais de cette association à Marrakech qui équipait en matériel audiovisuel des salles de cinéma. Je suis allé faire une formation. L'association elle-même ne veut pas non plus l'argent pour me faire venir. C'est encore l'ambassade de France qui était partenaire du projet, qui a financé ma venue, si je puis dire. La coopération est très forte. Hein. Les affaires étrangères pour la coopération culturelle, le Maroc est le pays où la France met le plus.
On ne peut pas solliciter le CCM dans le sens où le réalisateur, même s'il est né au Maroc, il a vécu au Maroc 18 ans de sa vie, il n'a pas la nationalité marocaine. Et du coup, par exemple, on ne peut pas solliciter le CCM. Pour un réalisateur, pour avoir l'avance sur recette, il faut avoir un cinéaste marocain.
Voilà quelques paroles prises par ici et par là pour commencer. Pour commencer, je vais introduire Fab.
Donc, bonsoir à tous. Alors, ce soir, on a pas mal d'invités dans le studio de Galère. Alors, moi, j'aimerais poursuivre cette émission avec, effectivement, ce couple franco-marocain. Je vais témoigner d'une petite expérience que j'ai vécue récemment au Maroc, dans le cadre d'une résidence de création que j'ai pu mener à Ouarzazate, il y a environ un mois. Grâce à, au fond, Roberto Cimetta, et je les en remercie. Quand j'ai demandé à Ouarzazate... Oui, je suis gentil, je sais, il faut remercier toujours les gens qui t'aident, bon, c'est un principe. Quand je suis arrivé à Ouarzazate, bien entendu, je me suis intéressé à ce qui s'y passait. C'est pas la première fois que j'ai à Ouarzazate, mais... Ouarzazate est connu comme étant une plateforme en tous les cas, le pôle du cinéma marocain, en tous les cas, peut-être pas le pôle en termes d'activité cinématographique, mais en tous les cas de notoriété, puisqu'on sait qu'il y a les grands studios qui sont là-bas, etc., et qui reçoivent pas mal de productions étrangères. Quand j'ai demandé ce qui se passait cette année en termes de cinéma à Ouarzazate, on m'a dit, il y a un événement quand même qui s'est passé cette année à Ouarzazate, alors pas beaucoup de tournages, mais... Il y a eu MovieMed. Alors le MovieMed, c'est quoi ? Le MovieMed, ce sont des rencontres en fait qui sont passées à Ouarzazate autour d'une idée que le couple cinéma et tourisme pourrait être un moyen assez fructueux, juteux pour développer le cinéma et l'économie d'une région grâce. au cinéma et au couple cinéma tourisme. Alors, MovieMed, ça s'est passé en janvier de cette année, en 2011. Alors, faut savoir quand même que quand je me suis intéressé à ce que c'était que ce MovieMed, ce sont des rencontres qui ont été orchestrées par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Hein, et donc là, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus. 300 personnes, en fait, ont été invitées à rejoindre ce MovieMed pour discuter des moyens qui permettraient à ce couple ciné-tourisme de rapporter de la région, de l'argent pour la région. En l'occurrence, l'idée est que ce principe puisse être développé dans pas mal de régions, notamment autour du bassin méditerranéen. Donc, il y a eu une première édition qui a eu lieu à Marseille, la deuxième à Ouarzazate qui a été choisie, et il y a eu des tables rondes organisées pour débattre de l'intérêt de...
Est-ce que vous nous entendez ?
Alors, après ça, les questions qui se sont posées autour de nombreuses tables d'experts en tourisme et en hôtellerie, on va dire, ont donc statué sur des résultats qui disent que, développant le tourisme et le cinéma, on aura des résultats en région qui seront importants en termes de développement. Donc, après ça, moi je me suis quand même posé la question de ces retombées en région. Il se trouve que ces chiffres qui sont donc avancés sur les retombées en région du cinéma et du tourisme sont, on va dire, menés autour d'une étude qui s'appelle le benchmark, qui est de comparer dans les différents pays l'impact du ciné-tourisme. Bon, il se trouve que peu de choses sont démontrées en la matière, hein, mais on se base sur une idée que quand même le couple ciné-tourisme, c'est ce qu'il faut faire. Moi, là où je m'inquiète un tout petit peu, c'est effectivement, bon, on s'intéresse ici dans cette émission au cinéma indépendant. Là, en l'occurrence, on parle de cinéma et de tourisme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir amener avec ce couple-là? Moi, j'ai interviewé en fait une personne qui a participé au MovieMed, parce qu'en fait, en l'occurrence, il devait y avoir un prix, une bourse pour celui qui gagnerait le MovieMed. Laurent, tu peux peut-être envoyer en fait la petite interview que j'ai fait à Ouarzazate.
Un concours, ça engage aussi des frais, quoi qu'il arrive. Un bout à bout fait que c'est un budget. Et sans candidat, pas de MovieMed. Encore une fois, je suis sur ce côté-là, ils peuvent être au chômage, ces gens-là. Alors, durant 3 jours, je le dis, c'était très intéressant. On ne peut pas dire que c'était une coquille vide, non. Il y a eu des rendez-vous, il y a eu des tables rondes, il y a eu des repas d'offert, des pauses café très très bien faites. Mais derrière, c'est vraiment, ils sont partis comme des voleurs. J'ai eu mon sentiment tout de suite, dès la sortie du MovieMed le soir, où j'ai gagné de façon honorifique un prix en plastique. Je me suis rebiffé à la sortie du MovieMed, le soir même, hein, vraiment, 10 minutes après la sortie, auprès de Monsieur Georges Antoun, le vice-président de la Chambre de commerce de Marseille. Je lui ai demandé, monsieur, poliment, parce que, bon, quand on est en colère, on peut oublier le protocole. Je lui ai demandé, monsieur, y aurait-il une ouverture sur les finances, on pourrait emprunter, on pourra une facilité, sachant que le chèque ne venait pas, parce qu'il n'y avait plus de chèque, du coup, pas de prix. Oui, parce que quand vous mettez bout à bout l'intitulé du concours de l'événement bourse, premier prix, deuxième prix, sous-entend un prix, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Sans l'argent, on ne pourrait rien faire. Mais là, il n'y a pas d'argent.
Voilà, alors
pas
en fait.
Pas d'argent.
Ouais, bon, alors je vais essayer d'être un peu plus clair que je ne l'ai été auparavant. J'ai l'impression de mettre un peu en mêlée les pinceaux. En tous les cas, le but du MovieMed, c'était effectivement de se réfléchir de comment on peut attirer des grosses productions dans les régions où le couple cinéma-tourisme peut fonctionner. En l'occurrence, Ouarzazate étant une bonne plateforme pour ça. Donc, première édition à Marseille, puisque Marseille est intéressée à aussi réfléchir sur cette question-là de ciné-tourisme en se basant sur des chiffres qui, des expériences qui ont lieu lieu au Royaume-Uni en l'occurrence et ailleurs. Donc moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est que le tourisme, ok, bon, pourquoi pas se servir du cinéma pour développer un tourisme, on va dire, peut-être intéressant. En l'occurrence, on le sait, bah, je veux dire, au Maroc, c'est pas franchement les Marocains qui connaissent leur pays, mais en l'occurrence, s'il s'agit de développer un tourisme qui permettra à plus de Français d'aller visiter le Maroc, c'est bien. Ouais. Mais le problème, c'est que bah, les Marocains continuent de ne pas pouvoir venir en France, ne serait-ce que pour un visa touristique. Donc, bon, il faut quand même se poser une question éthique par rapport à ça. Je trouve que c'est un petit peu compliqué. Par ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cinéma aussi prend des allures de, on va dire, de production autour du tourisme, c'est-à-dire développer, ils le disent clairement dans les rapports du Movie Med, il va falloir développer des infrastructures, hôtels, routes, aéroports, etc., qui permettront de développer un cinéma plus tourné autour du tourisme, donc d'accueillir des gens, etc., etc.
D'ailleurs, film de propagande pendant la période de la colonisation de la France, où finalement les films qu'il y avait, c'était des films sur la beauté du Maroc et de son paysage, d'une certaine manière.
Ouais, en l'occurrence, ce qui m'inquiète un peu, bon alors moi je pose ça en suspens, hein. C'est vrai que la région chez nous ici vient d'éditer un rapport en fait sur une étude, plutôt une étude qui est de savoir un peu quel impact peut avoir le cinéma en région. Et en l'occurrence, cette étude s'appuie aussi sur les résultats de MovieMed. Donc en l'occurrence, on peut se demander pourquoi on s'appuie aujourd'hui plus en termes d'intérêt sur l'idée que le cinéma et le tourisme peuvent être un des éléments de choix d'une politique plus axée sur un cinéma d'industrie, donc, que sur un cinéma indépendant. Or, on le sait à la fois en France et au Maroc, le cinéma indépendant est extrêmement foisonnant et que le renouvellement du cinéma ne se situe pas là, mais se situe bien, au contraire, en marge, et bien dans un cinéma indépendant qui est de moins en moins soutenu. Bon, alors, aujourd'hui où le Maroc trouve peut-être une certaine forme de moyens pour les cinéastes. Moi, je m'inquiète juste un petit peu de ce que peut devenir le modèle français, on va dire, développé dans des pays amis comme le Maroc, et de continuer quelque part une sorte de colonisation moderne, voilà, sur le tourisme comme vecteur du nouveau cinéma. Voilà. Bon, ça c'est vraiment ce. D'ailleurs, il y a une citation du ministère de la culture qui, alors je cite, français, hein, je la retrouve, elle est ici. Sur le site du ministère, donc secrétariat d'État Frédéric Lefebvre, on peut lire la journée mondiale du tourisme, dont l'édition de septembre 2011 aura pour thème le tourisme et le rapprochement des cultures, célèbre la contribution du tourisme à la disparition des barrières entre les cultures et au développement de la tolérance, du respect de l'autre et de la compréhension mutuelle.
Amen.
Dans notre monde souvent en proie aux dissensions, ces valeurs représentent un tremplin vers un avenir plus paisible. Alors on le comprend bien, le tourisme est un vecteur très très intéressant pour le rapprochement des cultures. Bah ouais, enfin sauf qu'il faudrait peut-être que ce soit pas que les Français qui puissent voyager, tu vois. C'est ouais. Un truc voilà. Il faut quand même.
On connaît déjà beaucoup de monde, hein, nous, les Français.
Voilà. Alors, il faut quand même juste. Je termine avec ça. Derrière ce MovieMed, il y a des grands groupes. Hein. Il y a le groupe Accor, par exemple. Il y a Invest in Med, qui est une espèce d'agence européenne, etc. Donc, je ne sais pas combien ça a coûté, hein, ces rencontres. En tous les cas, faire venir 300 personnes. Il y a certes des Marocains, mais des gens qui viennent de la Méditerranée entière. Pour se dire que bah il faudrait effectivement développer des moyens pour le tourisme autour du cinéma avec produits dérivés et compagnie. Moi, je suis passé à Ouarzazate, j'ai pas vu qu'il se passait grand chose en termes de création indépendante ou de cinéma, alors qu'il y a des potentiels, il y a un potentiel énorme. Je pense qu'il y a énormément de jeunes qui ont envie de faire des choses, et il y en a qui en font, peut-être à la maison, etc. Donc il faudrait peut-être un peu se pencher là-dessus.
Puis on parle aussi d'une certaine industrie du cinéma, le tourisme et le cinéma un peu industriel, quoi. La question du cinéma indépendant, là.
La question du cinéma indépendant, effectivement, il est pas pensé comme tel, puisque quand à un moment donné on priorise un cinéma qui est rentable, hein, c'est la question du jour, hein, parce que que ce soit le rapport de la région ou MovieMed, c'est la même direction, hein. Comment on va pouvoir, sous couvert de dire qu'effectivement on soutient un cinéma d'auteur de qualité, etc., mais n'empêche que ce qui est défendu ou ce qui est valorisé, c'est un cinéma qui va rapporter de l'argent, hein. Donc ça, c'est clair et net dans les objectifs aujourd'hui.
Moi je voudrais juste intervenir, et puis en rebondissant, bon, on est au Maroc ce soir, mais ces questions là on les traverse aussi en France déjà. C'est bien connu que ça n'a jamais été les gros projets tels que Euroméditerranée, qui sont à peu près l'équivalent que tu viens de citer au Maroc, donc
MovieMed.
Donc c'est pas, il me semble pas que ce soit ce genre de gros dispositifs à financement transversaux européen et plutôt orienté vers le marché qui finance le cinéma indépendant, que ce soit au Maroc ou en France. On est conscient de ça, dans tous les cas c'est pas ce genre de choses qui finance le cinéma indépendant et la création artistique en général. Juste pour rappeler que c'est pas une émanation du haut qui permettra de développer la création artistique et cinématographique indépendante. Enfin, voilà. Et bon, moi je vais juste intervenir pour rebondir en apportant peut-être un contre-pied par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce que j'ai pu vivre au Maroc et voir. C'est
ouf.
Bon, sans vouloir faire
parle bien devant le micro.
Sans vouloir annoncer une vague de créativité cinématographique indépendante au Maroc. Bon, je voulais juste, pour démarrer, il me semble que depuis ces 10 dernières années, le Maroc a vu naître un pléthore de formations en tout genre, plutôt dirigées vers la communication, a priori. Il faut savoir que l'école, le système scolaire universitaire public au Maroc est devenu absolument catastrophique, c'est devenu un marché, le marché de la formation, que ce soit autant dans l'école primaire que jusque dans les écoles de universitaires et de haute formation. Et ces 10 dernières années au Maroc, on a vu apparaître énormément de formations en communication, publicité, art visuel, pour englober toutes les formes de tous les médiums de la communication, on va dire. Et parallèlement à ça, il y a quand même une histoire d'une tradition des écoles des beaux-arts, et il me semble que de l'expérience que j'ai eue au Maroc, j'ai quand même vu parfois des écoles en question, des écoles de communication, parfois des écoles des beaux-arts, émerger des formes qui sont indépendantes, j'en sais rien, indépendantes par rapport à qui, c'est une question aussi, mais en tout cas sur des formes à la fois économiques fragiles, donc je sais pas si la question de l'indépendance elle dépend de ça, et à la fois sur des modes de diffusion indépendants indépendant dans le sens où c'est un artiste qui se pose seul la question de qu'est-ce qu'il a envie de porter comme vision du monde, quoi.
Alors bon, vous pouvez réagir à côté, hein, parce que je suis. Il y a une table ici dans le studio. Alors il y a Nisrine, il y a Caroline, il y a Waïb. Waïb, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Nisrine?
Simplement pour pour répondre à ta manière de dire que, en fait, le cinéma marocain aujourd'hui, comme le cinéma français aujourd'hui, en France, on est à peu près dans les mêmes scénarios de montage. La diffusion, comme de moins en moins il y a de salles, les salles sont normalement qui doivent montrer une programmation à l'année de films documentaires, de films de genre variés. Ne sont plus accessibles depuis cette indépendance, justement, où il y a encore cette génération de nostalgie qui s'accroche à des postes clés dans l'administration et ils font enfiler la commande et ils assistent même en ce moment toutes les salles disparaissent, c'est pas Maroc spécialement, c'est pas l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est le Maghreb, c'est toute l'Afrique qui...
Alors, oui, justement, excuse-moi de te couper.
Après, en fait, cette histoire de colonisation, aujourd'hui, on est dans le monde, quoi. Oui. C'est tout ce qui se passe là, à la rue, tout le monde est à la rue, aujourd'hui, dans toute la planète, dans tous les pays, les gens sont sortis à la rue, simplement, et tout le monde... Enfin, il y a... les mêmes systèmes de fonctionnement à travers les festivals qui ne sont que des événements pour concentrer la diffusion en très peu de temps à une grande masse de population où toujours il y a une forme de sélection de public qui s'opère à l'intérieur. Bon, il y a des spéculateurs, hein, il y a des gens qui savent étudier les chiffres et donc fabriquer des publics, comme ça. C'est tout que du montage. On est presque dans le virtuel, dans cette manière de voir nous. Enfin, moi personnellement, pourquoi je suis là? Parce que je pense que, oui, ça me questionne cette histoire de comment... Et en quoi on peut spécifier aujourd'hui un cinéma indépendant? Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Et comment est-ce qu'on construit des films? Pourquoi dire? Pourquoi faire? Est-ce que le film doit participer à cette société? Ou est-ce que le film doit être juste un regard sur sa société? Toujours dans la théorie du constat. Quoi.
Alors, oui, justement, quelques chiffres, parce que on sait que bon partout, le nombre de salles effectivement diminue. Enfin, il y a eu c'est même logique un peu partout, que ce soit à Marseille ou ailleurs. On sait que nous on a plus beaucoup de salles. Il y en avait 80 à l'époque dans les années je sais plus quoi. Quelles années, mais en fait, en tous les cas, on comptait beaucoup de salles de cinéma. Au Maroc, c'est pareil, l'arrivée de la télévision, etc., etc. On sait que il y a des revendications qui sont faites. Je pense à l'agenda 21, par exemple, qui dans ses textes propose que le cinéma, la salle de cinéma, soit un pan, en tous les cas, nécessaire pour le développement du cinéma. Et tu le disais très bien, on voit bien qu'au Maroc, comme ailleurs, mais au Maroc, dans une possibilité d'émergence d'un cinéma indépendant ou d'un cinéma plus important, en tous les cas, l'absence de salles de cinéma ou en tous les cas le peu de salles de cinéma qui continuent d'exister fait que ne facilite pas en tous les cas l'émergence d'un public participatif d'un cinéma. Tu citais certains chiffres par rapport au nombre de ces salles au Maroc.
La tendance est à peu près pareille dans tous les pays, que ce soit la Tunisie jusqu'en Égypte. Sauf que bon, en Égypte c'est un peu spécial. Il y a une industrie qui est visible, c'est l'industrie du film. La salle sert à diffuser des films de masse. Au Maroc encore, on a des salles d'une catastrophe, quoi. C'est pas des salles, c'est des lieux de rencontre et d'exhibition, bien sûr dans le secret de la salle. Voilà, il n'y a pas de... On ne débat pas, on ne questionne rien, on rentre, on sort.
Bon, après, il y a des festivals, il y a énormément de festivals qui font de la diffusion quand même cinématographique en dehors des salles de cinéma.
C'est
il y a
quand même réservé.
Des... Est-ce que c'est de la production marocaine, en fait? C'est souvent des festivals, on en parlait, qui diffusent beaucoup, beaucoup des festivals qui se disent internationaux et qui, du coup, diffusent énormément de films d'autres pays, mais en fait, peu du Maroc. Alors, est-ce qu'il se fait des films au Maroc? Et comment c'est...
On peut, sur ces questions de diffusion, peut-être Laurent, tu peux envoyer un peu le montage qu'on a réalisé. 1, 2, 3, c'est parti.
Le problème aujourd'hui, qui est un vrai problème, c'est la disparition des salles de cinéma. Et ça, c'est un vrai problème parce que aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, on a 60 à 70 écrans écrans en peint à pain sale, dont la moitié à Casa et à Rabat. On a essayé donc de développer une offre pour les réalisateurs et pour la production de certains cinémas marocains. Et à côté, on ne s'est pas donné les moyens pour permettre à cette production et à ce cinéma de trouver son public.
Donc ça n'a cessé de décroître pour deux raisons. Comme partout, eh bien, la télévision est arrivée. Les Marocains, comme tout le monde, consomment des films chez eux parce qu'ils ont des paraboles. Ils vont sur toutes les chaînes de les pays arabes possibles, etc. et autres. Hein. Et puis, alors, deux, trois raisons. Hein. La deuxième raison, c'est le marché effréné des DVD. La troisième raison, c'est que les salles sont devenues vieillottes. Les propriétaires des salles, qui étaient des hommes d'affaires privés, n'ont pas éprouvé le besoin de restaurer, d'entretenir, de moderniser leurs salles.
À Casablanca, une multiplex comme Megarama, bah, il marche super bien. Donc peut-être aussi, cette politique aussi pense que c'est au privé de développer son offre dans ce sens.
Le gouvernement, lui, n'est pas acteur dans cette affaire. Le gouvernement n'a pas de salle, n'a pas créé de salle. Je ne sais pas si la volonté politique y est réellement. Je ne crois pas que ce soit. Contrairement à l'Algérie, justement, c'est intéressant de faire la comparaison. Hein. Contrairement à l'Algérie, qui a vu dans le cinéma un outil intéressant de diffusion de problèmes politiques, de parler politique, parce que le cinéma algérien était extrêmement politique. Le gouvernement marocain misait là-dessus, bien évidemment. Il y a peut-être eu, au fond, des consciences, des suspicions par rapport au cinéma. Hein. En plus de cela, le rapport à l'image ne va peut-être pas de soi, n'allait peut-être pas de lui-même. Ben oui, ça paraît tout bête, mais le cinéma est un art de l'image, et on sait le poids du passé dans ces pays.
Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les salles disparaissent, les salles ferment, les écrans se réduisent, et que le public, il est inexistant pour les films marocains.
L'Algérie avait beaucoup de salles à l'indépendance. Beaucoup. Parce que le poids de la colonisation française était très fort. Le Maroc en avait beaucoup moins, beaucoup moins. Hein. Il y a une soif, sans doute, une volonté de voir des films. Hein. Hein. C'est ce qu'on peut dire. Hein. Mais il n'y a pas de formation, il n'y a pas de culture cinématographique. Il y a eu une rupture entre les générations. Il y a une génération qui était des férus de ciné-club, et il y a une génération de jeunes qui ont envie de voir des films, certainement, mais qui ne connaissent pas l'histoire du cinéma. Moi, je connais très bien quelqu'un qui a été 10 ans au ministère dans un ministère au Maroc, et qui se battait pour faire avancer le cinéma, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, ce qui semble être une bonne chose pour former de futurs, de jeunes spectateurs. Il n'a pas réussi à avancer ce dossier. Hein. Ça coûte de l'argent, et c'est pas là qu'on a mis la priorité. Hein. C'est pas là qu'on a mis la priorité. Hein. Il y a une distorsion, je suis pas le seul à le dire d'ailleurs moi-même, je ne veux pas parler pour les Marocains, ce sont eux-mêmes qui le disent un peu quand même. Une distorsion parce qu'il y a un nombre effarant de festivals, parce que, je dirais, dans une ville donnée, une province donnée, les responsables de la région vont peut-être volontiers donner de l'argent pour aider à créer un festival, parce qu'ils disent que ça va être bon pour ma ville, pour ma région, etc. Ça va créer un événement, ça va attirer du monde. Hein. Mais on en reste à l'événement, on pourrait dire un peu. Ou alors, il y a eu la création du festival de Marrakech. Alors là, évidemment, le festival de Marrakech, ça c'est né en partie la volonté du Palais Royal. Et puis aussi de gens qui venaient de France. C'était la création de Toscan du Plantier, même, etc. Ça, oui, bah oui. Donc c'est une espèce de Cannes bis, je ne sais pas, hein, qu'on a créé là-bas. C'est un événement international, plus qu'un événement marocain. Enfin,
le cinéma du Maroc.
Bien, alors, qui veut réagir un peu à ce qui s'est dit là?
Si je peux me permettre, moi je voudrais déjà réagir sur ce qu'a dit ce monsieur. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est, ce serait bien de le mentionner. Alors, donc, sur la question de l'histoire du cinéma, alors déjà, je voudrais juste dire, mettre un bémol par rapport à ce qui a été dit. Déjà, à mon sens, tous les cinéphiles et tous les spectateurs de cinéma ne sont pas des fins connaisseurs de l'histoire du cinéma, moi y compris. Hein, il me semble que j'aime beaucoup aller dans des salles, mais je suis pas une connaissance pointue de l'histoire du cinéma. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que par rapport à cette question de l'histoire, au Maroc, il s'avère que les films qui ont été évoqués dans le premier interview, des films plutôt militants, d'obédience commune, qui ont été produits dans les années 60-70, dont les droits sont détenus par le CCM, le Centre du Cinéma Marocain, Cinématographie Marocain, sont absolument invisibles, et y compris dans les hautes sphères de diffusion télévisuelle. Moi, j'ai entendu un témoignage d'un directeur de programmation qui prenait à témoin lors d'une table ronde dans le cadre du Festival international du documentaire d'Agadir, qui prenait à témoin et à partie devant une audience publique en lui affirmant que les archives cinématographiques de l'histoire du cinéma étaient et ces films en l'occurrence étaient absolument invisibles, et même si la demande est faite de 2M, donc la plus grande chaîne de télévision marocaine, quoi. Donc bon, voilà, c'est une autre question ouverte, cette question de l'ouverture publique des archives cinématographiques au Maroc.
Voilà, c'est une vaste question, Nisrine. Merci, tu nous fous dans la merde.
Non, je voulais juste préciser ça par rapport à cette question de l'accessibilité de l'histoire du cinéma et de la connaissance qui permettrait de développer des formes indépendantes du cinéma. C'était ça le lien.
D'accord. Alors, est-ce que peut-être, Waïb, toi qui est...
Moi, c'est pareil, quoi. Mon histoire, c'est que j'ai pas appris le cinéma dans aucune école, mais je l'apprends en faisant, quoi. Et je suis pas le seul. On est pratiquement beaucoup, que ce soit ici en France ou en Maroc, de gens qui essayent d'inventer des films ou des sortes d'essais filmiques par tous les moyens. Maintenant, il y a plein de jeunes. Il faut savoir que le Maroc aujourd'hui compte une population de la moitié de la population a la moins de 25 ans au Maroc. C'est énorme pour un pays qui a 38 millions d'habitants.
On ne peut pas dire que ce soit la même chose chez nous, effectivement. Ça doit être l'inverse, à mon avis.
Voilà. De 400 salles il y a 30 ans. Tout à l'heure, tu voulais me demander les chiffres que je t'avais répétés. De 400, on était passé à 10 salles. En fait, des salles homologues n'existent pas. Il n'y a pas vraiment une culture cinématographique pour le peuple au Maroc. Je ne crois pas que ces gens qui sont communistes ou communards ou communards, c'est que des costards cravates pour moi. C'est des gens qui n'ont pas du tout prévu cette catastrophe démographique que nous avons au Maroc, en Tunisie, en Libye, dans tout le monde arabe. Il y a la même ascendance. Et nous, on n'est pas là, parce que là, on parlait sociologie ou démographie, je ne sais pas, mais le cinéaste, c'est un peu tout ça, quoi. Il doit être outillé de certains. Ou alors, il y a beaucoup de gens qui apprennent comme nous, mais qui sont en immersion totale, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément la maîtrise de la langue française, comme beaucoup de réalisateurs s'essayent à produire, alors qu'il leur faut des traducteurs. Il leur faut des sous-titrages pour faire leur film encore. C'est impressionnant. Aujourd'hui, heureusement, il y a des autonomes qui se, il y en a qui se distinguent. Il y a quelques écoles encore de cinéma au Maroc. Il y en a plusieurs ici de cinéma qui ont formé d'écoles de cinéma qui ont formé des Marocains en France ou dans toute l'Europe et qui se tentent à fabriquer des films sur la société marocaine particulièrement. Ou qu'est-ce qui se passe à cet endroit, ou qu'est-ce qui se passe en fait dans ici ou là-bas, c'est un peu préparé.
Oui, je te coupe.
Le cinéma, c'est quand même à sa base, avec son développement, c'est quand même une industrie. Ça a été industrialisé il y a pas longtemps en France avec Jacques Lang, comme tous les autres secteurs de l'art. Le 7e art, c'est le dernier de la dernière charrue. Les cinéastes aujourd'hui font pas des films pour. Ils sont en compétition, certes, parce que la politique du festival, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail quoi, pour
répondre à. Oui, revenons, si tu veux bien, à ton expérience personnelle, parce que toi, tu as tourné dans ton pays.
Oui, déjà il y a donc beaucoup de choses qui sont tabous, qui sont tombées. Il y a des jeunes réalisateurs aujourd'hui. J'avais le plaisir d'aller sur le festival d'Apt. Je profite de l'occasion pour parler de ce festival. Bon, et alors j'ai vu des films qui sont visibles, que vraiment on voit. On aimerait bien les voir en salle.
Est-ce qu'il y a des films marocains dans cette programmation?
Des films marocains, moi j'ai pas vu de film de marocain, mais j'avais cru voir un film marocain, mais finalement le réalisateur c'est un Égyptien, mais il le réalise dans des décors, en effet, ouais, il le fait quelque part au Maroc aussi.
Dans les fameux studios d'Agadir.
Mais tout ça pour dire que je sais pas, on est quand même simplement un regard en faisant, en apprenant à une forme d'autonomie. Maintenant, c'est très exigeant quand même pour pouvoir réaliser un film. Il faut quand même avoir tendance à discuter sur toute la chaîne de sa propre minuscule production. Il faut quand même connaître que c'est des logiques qui sont souvent. C'est pour ça que c'est très dur de finalement réussir à travailler avec un groupe de personnes qui s'investissent pour un film. Et là, voilà. Mais sinon, je pense que les collectifs, ils pourront. Peut-être, il y a une clé, peut-être, dans cette situation, c'est que les salles de proximité qui ont simplement été laissées par les mêmes promoteurs immobiliers, qui spéculent sur le marché des salles, parce que les salles publiques, hein, où normalement on va aller voir une programmation à l'année, on voit toujours la même chose, c'est la même rengaine, c'est la même chose. C'est terrible quand même. De l'histoire géo, c'est le film indien, c'est obligatoire d'avoir deux films à l'affiche à chaque rentrée, l'indien en premier, puis tu as un film karaté, un genre pour se cacher quoi. On cultive pas le cinéma au Maroc, on cultive l'abrutissement par l'image, voilà, et ça a duré longtemps. Maintenant heureusement il y a cet assaut démocratique, ce rêve démocratique, c'est pas ça. Peut-être il apportera un peu mieux les vieux à écouter un peu les jeunes et parce que les jeunes, ou les vieux de cette ancienne génération de libérateurs quoi. Ils ont libéré quoi finalement? Ils ont plutôt encastré les gens autour de frontières, des frontières économiques. Maintenant, ces jeunes-là, qui forment la majorité écrasée de ces sociétés, leur disent comment vous avez oublié quand même le plus important de tout, l'humain, quoi. Qu'est-ce qui se passe, en fait?
Ah, mais t'as oublié qu'il y a Movimet, quand même.
On a tout vendu au Maroc, même les égouts, les poubelles. Tu trouves pas un marché dans ces secteurs-là qui sont gérés par un Marocain. Tu vas si fais les recherches, tu vois.
Il y a ça, puis je pense que c'est en fait. Enfin, moi, ça me semble lié à des questions de censure. Juste par rapport au fait qu'apparemment au Maroc c'est très difficile de faire un documentaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des reportages à la télévision qui se multiplient, ça c'est sûr, et avec Internet aussi. Et puis après des films de cinéma, mais du grand cinéma de fiction, etc. Après pour des formes plus différentes, mais même du documentaire qui serait du documentaire classique, c'est-à-dire vraiment qui remplirait le rôle de genre en tant que film, j'ai l'impression que c'est très difficile à produire. Enfin, apparemment, il n'y a pas du tout d'aide qui sont dispensées par le CCM pour le documentaire. Et je sais pas, Waïb, toi, t'es parti tourner au Maroc pour un film, t'étais pas journaliste, et je pense que bah, c'est des choses qui deviennent vite compliquées.
Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a souvent cette approche, parce qu'on démarre par une forme de reporter, on se la joue reporter, on prend sa petite caméra et vas-y, quoi, et tu vas sur le terrain pour vérifier avec ça qu'est-ce que tu peux garder. Et finalement, bah, tu écris avec ça. C'est, le fait de pratiquer le cinéma, aujourd'hui, tu as vu, Caroline. Moi, Nisrine, autour de ce plateau, Fabrice, Lolo,
mets-toi près du micro.
Voilà, tous, on fait quoi comme pratique finalement pour essayer de réaliser, pour essayer de rêver de faire des films. C'est, on a tous la pratique d'atelier, les films d'atelier. Les films d'atelier, il nous faut un local, et bien sûr, et pour poser ses affaires, le matériel, former les jeunes pour qu'ils se prennent en charge. Ils font des films, font des choses pour raconter. L'un son clip, l'autre il va fabriquer sa petite. Et chacun dans sa philosophie, dans son secteur d'activité. Et c'est dommage que au bout de tout ça, il n'y a que l'échec, quoi. Ces jeunes-là, ils sont peu ou vraiment pas du tout représentés. Il y a très peu de gens qui parlent de cette problématique démographique à la base, qui est à conséquence directe une vraie crise économique. Le Maroc est un pays qui coûte très cher aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui s'appauvrissent du jour au lendemain. Parce que,
si je peux me permettre, juste pour rebondir ce que tu as dit, Caro, effectivement, le CCM n'est plus le cinéma documentaire depuis les années 70, mais en revanche, il y a quand même un film en 2008 qui a eu une avance sur recette, c'est le film de Leïla Kehlani, Nos lieux interdits, un film qui a eu une audience à Marseille, notamment dans le cadre du FID. Et qui a été montré au Maroc également.
C'est l'exception qui confirme la règle.
Mais je ne veux pas affirmer de règles dont je ne pourrais pas affirmer de règles, mais voilà. En tout cas, en 2008, Nos lieux interdits a eu une avance sur recette.
Mais ce qui était, moi, en écoutant les petits montages de tout à l'heure, quoi, c'était assez dur comme réalité, je trouvais, de mon point de vue, d'entendre le fait qu'il y a eu un décollage, on va dire. Du cinéma marocain. D'ailleurs, la question du cinéma marocain, oui, on en avait parlé une fois. J'aimerais bien que tu me redises qu'est-ce que tu entendais par là. Mais quand il disait que c'était parce qu'il y avait eu avance sur recette que finalement il y avait eu décollage du cinéma marocain, alors que nous, ici, moi, de là où on se place, qu'on a la question de l'avance sur recette, comme la question de la place du CNC dans l'accompagnement et l'aide à la fabrication des films est assez problématique, quoi. Et que finalement, bah, au Maroc, on va prendre ce modèle-là et c'est ça qui va faire un décollage. Et c'est dur, c'est réalité, c'est points de tension, c'est contradiction, je trouve.
Bah, on est là pour ça, pour le dire, effectivement. Je crois que c'est tout à fait exact ce que tu dis. On se base sur des modèles, on essaye de reproduire des modèles, ou en se basant en tous les cas sur des choses qui sont faites. Vous voulez réagir, Caro et Waïb, là-dessus?
Mais après, enfin, je pense que la question de l'indépendance sur un cinéma marocain qui serait dit marocain, où on se pose la question aussi d'un cinéma de nationalité, où il y a aussi autre chose, moi, que j'ai retenu en fouillant un peu comme ça sur qu'est-ce que ça pourrait être le cinéma marocain aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui dont les parents sont marocains, qui vit en France aujourd'hui et qui défend ses origines, qui les vit ne peut pas prétendre non plus à des aides là-bas. Donc je parle encore d'aide parce que bah, c'est vrai que pour faire des films...
La double nationalité, c'est quasiment obligatoire entre la France et le Maroc. C'est qu'on ne peut pas renier sa nationalité marocaine.
Ben, peut-être, alors apparemment, je ne sais pas si...
Non, mais dans le sens que pour avoir, par exemple, ce qui est dit, c'est que pour avoir l'aide du centre marocain...
Il faut être de nationalité marocaine.
Uniquement. Ouais, c'est ce qui est dit. C'est pour ça que je trouvais que c'était ça, c'est aussi une autre position qui est contradictoire. Quoi. Il y a plein de contradictions. Ouais, faut être, moi, d'après ce que j'ai recueilli et ce que j'ai lu, il faut être uniquement de nationalité marocaine. Mais ce que je trouve à la rigueur assez juste, parce que c'est... Il y a tout aussi des choses qui se passent au Maroc où il y en a beaucoup qui sont assez déstabilisés ou énervés de ces Marocains qui reviennent en France, qui font des films et qui vivent à l'étranger. Quoi. Comment, qu'est-ce qu'on peut définir là-dessus ? Déjà, ils sont qui ? Et c'est ça, Wahib. Moi, je voulais te poser la question. Pour toi, est-ce que ça a une notion, ça fait sens de dire il y a un cinéma marocain ou pour toi ça fait pas sens de dire ça?
Non, moi je suis pas d'accord. Faut pas. Non, un cinéma fait par des Marocains. Et moi hier, je vous racontais tout à l'heure ma visite dans un festival à Aptoua, si on peut dire comme ça, Apt, la ville de Apt, qui est excellent. J'ai rencontré un Burkinabé. Il s'appelle Adama Salé. Et qui présentait un film intitulé L'or blanc. Et c'est l'histoire de deux copains africains qui traversent le désert pour peut-être atterrir sur un port marocain et trouver une cale pour monter sur les îles Canaries au plus désespéré, ou peut-être par chance sur les côtes espagnoles, voir. Les dents des requins, il paraît qu'on a de nouvelles espèces qui polluent notre océan. C'est de nouvelles espèces de requins. Voilà, le topo est très noir. Lui, là, il amène une petite lumière. Pourquoi je parle de ce film spécialement ? Parce que j'ai retrouvé un réalisateur, un vrai Marocain, qui a fait. Il connaît bien ses ancêtres, ses traditions. Il parle que de ça, son film. Il parle comment est-ce qu'on on peut guérir de la folie. Je pense que c'est dans ce sens, par une transe, une forme de transe, et puis un retour à la réalité. Et puis finalement, ça, la réalité pour lui, il a étudié au Maroc, puisqu'il sort de l'école de Marrakech. Il est de cette promotion, je pense, ou de la promotion de l'année dernière, donc 2000-2010, où il produit un petit film qui va être primé par un sacré festival, le FESPACO au Burkina Faso, à Ouagadougou, et que il a enfin un petit pécule pour venir en France c'est la pratique de la tournante, quoi. Les films sont fabriqués par des Français, après il y a des gros spéculateurs américains qui viennent prendre le marché à la source, et parce qu'ils payent cash direct, voilà, 30 008, bon, ça, voilà, ok, ça va, mais il a sa réserve, et ces films, ils ne sont pas consommés dans nos pays, ils sont fabriqués sur notre société. C'est le public, il sait qu'on lui cache quelque chose, mais jusqu'à comment faire? Je veux dire, on est face à des gens qui n'ont aucune éducation ou quoi. Alors c'est bizarre, nous allons. On dit, ouais, on bassinait beaucoup dans le truc, l'alphabétisme, il y a des taux d'alphabétisation énormes, d'analphabétisation énorme. L'expression de la langue n'a fait que formater des gens dans un système de pourri, quoi. Voilà. On en est là, mais moi j'ai rencontré donc cet Africain, je suis très content, qui m'a prouvé qu'il est plus marocain que moi. Voilà, parce que. Finalement, on change de peau selon le continent où on se trouve. Hein. Et il y a des gens qui sont dans la réalité, mais il y a des gens qui vivent dans la fiction, en spéculant sur la réalité de millions d'êtres.
Très beau témoignage. Merci, oui. Ça sèche.
Et moi, je voulais te poser aussi, dans la continuité... Mr. Wahib, juste ton expérience de tournage que tu as eu à Djerada, t'as été
qui est impliqué, poursuivi, conduit à l'hôtel de des poulets, et puis il me cuisine 4 heures, et puis il me confisque quelques heures de tournage quand même. Je suis sorti pas mal avec mon matériel que j'ai déclamé, réclamé. Je leur dis, je ne sortais pas. Bon, c'est vrai que voilà, après on te dit, ouais, on te fait pratiquement quasiment des soupçons de menaces, que tu fais un peu sa politique de transfert de la terreur et tout ça pour que tu te sentes persécuté. Tu ne peux pas conduire ton. Enfin, tu n'en peux pas. Que, fonctionner, on ne peut pas te laisser prendre donner la parole à la place publique, quoi, aux gens. Simplement dans ce travail, c'est à peu près ça. Et parce que c'est vrai, il y en a besoin, et puis nous on est très en retard. Mais on sent que les jeunes ils diversifient leurs pratiques, il y a des besoins, forcément, et c'est un outil qui leur sert d'écrire leur histoire à leur manière. Donc en essayant de se mettre dans la peau de super réalisateurs de films, non, on est peut-être simplement des intervenants. Je crois très bien que même dans la fiction, quand elle développe sur des personnages, ça devient du tac au tac. Ce cinéma, voilà, formaté. Et puis il y a l'autre cinéma qui laisse le temps poser le regard. C'est l'interprète qui compte. C'est les gens qui jouent. C'est les gens avec qui on joue qui sont plus importants. C'est pas les personnages que j'ai fictionnés. Et je pense un petit peu à dire ça.
Après, peut-être que, enfin, ce que tu peux préciser aussi, c'est que tu t'intéresses quand même à des gens qui sont plutôt délaissés et que du coup, ça gêne beaucoup au Maroc qu'on s'intéresse et qu'on donne la parole à ce genre de personnes.
Oui, c'est vrai, voilà, parce que c'est des gens qui subissent une brutalité de la condition humaine, quoi. C'est un destin.
Ligne notre invité, finalement.
Il est là, c'est Ahmed.
Oui, enfin. Ahmed, mais il ne peut pas nous parler, mais c'est bien, c'est la fin de l'émission, on a réussi à se brancher, à l'avoir. Alors, je vais juste lire les choses qu'il nous a écrites en réaction. Alors, il dit, non, c'est pas juste, il y a des cinéastes franco-marocains qui ont pu avoir d'aide, comme Ferrouk, Lagousli, Rochid Sem, Nabil Ayouch. Il nous dit que le box-office actuel, ce sont les films marocains et pas les films hindous ou américains.
Indien,
ouais, hindou. Les films marocains comme Casa Negra, Amour volé, Voilé et d'autres ont bien marché.
Enfin, ouais, moi aussi, je suis assez d'accord avec Ahmed sur ce qui vient de. Et tout à l'heure, j'ai aussi entendu que les salles de cinéma étaient désertées, ce qui est faux. Et puis, par rapport à la réaction des publics, il y a des réactions dans les salles qui sont absolument pas entendues en France. Et puis, je trouve que le public est très friand de cinéma, quoi. En tout cas, les expériences que j'ai eues dans des salles, c'est que les gens sont ravis d'être là, quoi. Bon, ils sont curieux de voir des choses, quoi.
Ce qu'il nous dit aussi, c'est que les festivals de cinéma ont remplacé les ciné-clubs. Alors ça, c'est significatif aussi.
Les ciné-clubs qui avaient été montés sous le protectorat français, ouais. Et qui ont duré jusque dans les années 70, à peu près.
Alors, effectivement,
oui. Pour former la génération des cinéastes.
Absolument, absolument. Donc, on se rend compte qu'on est un petit peu plus, quand même, c'est ce qui se passe aussi en France. Hein. On est beaucoup dans l'événementiel. Alors, les cinémas, on pourrait imaginer que ce sont... Bah, oui, c'est aussi des lieux de diffusion, bien entendu, mais quand même, alors, ce sont quand même des lieux où on diffuse du cinéma, mais ce sont des lieux d'événements. Qu'est-ce qui reste derrière ça? Qu'est-ce qui reste de la pratique du cinéma derrière? C'est une question qu'on peut se poser, d'autant que...
Oui, mais bon, cela dit, il y a des cadres qui sont perméables aussi. Hein. Moi, j'ai travaillé pour un festival à Casablanca, et ça a été l'occasion aussi pour nous de mettre en place des ateliers avec un groupe d'étudiants des Beaux-Arts de Casa, qui n'avaient absolument aucun accès au cinéma, à cette forme-là, puisque l'école développe une formation très axée sur la peinture et la sculpture abstraite, et qu'ils étaient hyper désireux de découvrir le cinéma, et ce festival a été l'occasion aussi de proposer une forme d'ateliers de cinéma.
Oui, tu as raison. Faut pas être tout noir quand même. Il n'empêche que c'est aussi les conditions qui font que tu as pu développer un festival, on va dire un petit peu naissant, un peu nouveau, qui permet aussi d'avoir une certaine forme de liberté. Mais on sait que les festivals, on le disait l'autre fois, sont pas forcément des lieux super appropriés pour le dialogue entre les auteurs. C'est souvent un endroit où tu viens présenter ton film.
Je crois que ça dépend vraiment de qui le porte.
Oui, tout à fait.
Et de la même manière, en termes de formation, il y a vraiment une disparité entre les formations qui sont dispensées au Maroc et les formations les formations artistiques notamment. Il y a un écart monstre entre l'école des beaux-arts de Tétouan qui est quand même qui fait un énorme travail et d'où sortent des formes hyper intéressantes. À côté de ça, le contre-exemple, ça peut être l'école des beaux-arts de Casa qui est complètement encroûtée dans son les étudiants ils pleurent auprès du directeur pour avoir un pot de peinture par an, quoi. Et quand on leur demande, quand ils demandent un pot de peinture, on leur demande mais pourquoi faire? Et c'est ça aussi la réalité. Après, à côté de ça, il y a d'autres écoles qui permettent, qui sont des viviers et qui permettent vraiment, qui sont vraiment des chapes de transmission, quoi.
Oui. Alors,
création.
Bien entendu. Ce que je veux dire juste, c'est que effectivement, le savoir être conscient d'où va les soutiens et où va l'argent aujourd'hui dans le cinéma. Et c'est vrai que, j'interroge juste la question des festivals pour me dire que ces festivals sont en général des festivals qui sont soutenus parce qu'il y a des retombées touristiques derrière aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, chaque ville a besoin de son festival pour développer sa notoriété, pour développer le tourisme, etc. C'est bien la raison pour laquelle on se pose ici, les gens se posent ces questions ici, en tout cas les experts ici se posent des questions, les experts politiques se posent des questions pour ici à Marseille aussi, pour savoir comment on peut profiter de la manne importante supposée importante du cinéma touristique pour des retombées en région. C'est des questions, j'imagine, qui se posent bien sûr dans les autres pays et en premier lieu au Maroc. Comment on peut utiliser le cinéma aussi pour développer le pays. Alors, notre rôle aussi à nous, c'est de mettre en garde et de dire que, comme le disait Voyer, bien sûr.
Les Marocains, les jeunes artistes marocains ne sont pas stupides aussi. Et ils sont capables de mesurer la différence qu'il y a entre une exploration financière du territoire et puis des créateurs.
Je ne remets pas en cause cette question. Les Français non plus ne sont pas stupides. Mais en l'occurrence, on a besoin quand même de dire et de mettre en relief quand même ce qui se décide au niveau politique. Je veux dire, tout le monde n'est pas, comme tu disais tout à l'heure, les gens ne sont pas au courant de l'histoire du cinéma. Peu de gens sont au courant aussi des politiques menées. Et ça, il faut quand même le souligner. On ne comprend pas, c'est assez austère, hein, de savoir quelle orientation politique à un moment donné, où va l'argent pour le cinéma, etc. Aujourd'hui, il y a de l'argent pour des festivals, il n'y a pas d'argent pour la création cinématographique indépendante, c'est tout. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense.
Ahmed nous écrit que la nouvelle génération des Marocains s'intéresse plus à l'image, donc au cinéma. Mais pas tous les festivals sont à la hauteur.
C'est vrai.
Actuellement, il y a 48 salles avec 70 écrans.
Voilà. Ben, en tous les cas, moi j'étais à Ouarzazate et la pauvre salle de cinéma qui existe à Ouarzazate, elle est fermée. Elle a réouvert il y a 2 ans pour 6 mois, elle a refermé. Ben, comme disait Wahib, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que les salles de cinéma sont détenues par des investisseurs. Quoi.
On a été à Oujda où il y avait une seule salle de cinéma mais qui ouvrait un seul jour par semaine et il y avait la seule programmation dans une ville d'1,5 million d'habitants qui programmait des films. C'était un film par mois, c'était le Centre culturel français et on s'est dit avec Wahib, on va y aller pour rencontrer des gens et voir qui va regarder ces films. Donc on était que tous les deux avec 2 autres personnes et le film projeté c'était La Grande Vadrouille. Bon, après il faut aussi pas oublier de parler que le Maroc quand même est séparé en deux. Là on a beaucoup parlé du Maroc. Il y a le Maroc frontalier avec l'Algérie et puis il y a le Maroc frontalier avec l'océan et c'est deux Marocs. Il y a un Maroc occidental et puis un Maroc oriental. En plus de tout ce qu'on vient de raconter, c'est une donne géopolitique importante à connaître.
Donc, qui est communément appelé par les économistes, mais aussi par les politiques franco-marocaines, le Maroc utile et le Maroc inutile.
Voilà, et lequel est utile et lequel est inutile?
Ah ben, tu l'as dit toi-même, je vais
bon. Il y en a un qui est plus rentable que l'autre, certainement.
Un petit peu.
Bon, les deux peuvent être rentables.
À savoir dans quel type ou genre de comptabilité pose des questions.
Donc il est,
ben, il est l'heure de continuer à se poser des questions.
Il est l'heure.
Bah, je voudrais quand même remercier un peu tous ceux qui étaient là, hein. Nisrine, Caro, Waïb. Merci à toi Lo, merci à moi-même.
Merci à toi Fab.
Je peux juste faire une pub, hein.
Oui.
Je voulais juste te dire que j'ai découvert un artiste dont le nom s'appelle Saïd Raïs, qui est un sortant de l'école des Beaux-Arts de Tétouan, qui va présenter un film à Paris prochainement dans le cadre d'un festival qui s'appelle Le Jasmin l'emportera, artiste des insurrections arabes. Donc ça se passe le 25 novembre au théâtre Jean Villard pour les auditeurs parisiens.
Je voudrais juste aussi faire une annonce.
Conseil d'aller ouais. voir ce film de ce jeune artiste marocain.
Merci Nisrine, je voulais juste rajouter aussi avant qu'on termine que voilà, la semaine asymétrique a lieu donc au Polygone étoilé, à la Cité Maison de Théâtre et
rue
à la Compagnie du 17 au 26 novembre. Donc bah, venez nombreux, c'est entrée libre pour tout le monde.
De 10h du matin à 8h du matin.
Non, on va dire que ça commence à 13h avec des tables humaines. Ça commence à 13h, ça finira très tard dans la nuit tous les soirs. L'entrée est libre, donc c'est bien entendu gratuit.
On peut dormir sur place.
Je voulais juste rajouter aussi
déjeuner
pour rebondir là-dessus que ce sera l'occasion de découvrir un film marocain fait par des Marocains le 22 novembre à la Maison de Théâtre de la Cité.
D'accord, le 22 novembre. Donc ben merci à tous au monde entier qui nous a écoutés. La prochaine fois nous irons en Algérie. Et ben voilà, on vous retrouve en Algérie bientôt.
Et merci Ahmed.
Merci Ahmed. Il faut aussi souligner l'expérience de la Cinémathèque de Tanger qui fait un travail énorme pour la culture du cinéma. Au revoir tout le monde, à la
merci
prochaine.
Merci pour ce petit détail
bientôt.
Qui n'en est pas un. عم تبدل الريح مين جاي بدلوا بدلوا الميزان والناس سمعوا الصوت صوت القصبة
de son choix.